Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Alors, bonjour, chers auditeurs. Je suis aujourd'hui pour le 8e épisode avec la gang du laboratoire d'un de nos membres, Philippe Dauphin-Ducharme, qui est situé à la Faculté des sciences à l'Université de Sherbrooke, au campus principal. Je suis présentement, plus précisément, avec une grosse gang. Ils ne sont pas tous au micro présentement. J'ai pour l'instant Élodie qui est avec moi. Bonjour, Élodie.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Donc, étudiante aussi dans le labo de Philippe Dauphin-Ducharme. On va parler tout à l'heure un petit peu plus de ce que tu fais. J'ai aussi Nicolas avec moi.
Salut.
Salut. Ça va bien aussi?
Oui, toi aussi.
Excellent. Et j'ai Lisa qui a vraiment envie d'être là au micro.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va super, merci.
Super. Tu peux approcher un peu ton micro, ne sois pas timide. Donc, ce matin, on est ici ensemble pour parler de biocapteurs. Ça peut aussi être des biosenseurs. Il y a plusieurs termes. On entend souvent parler de ça, en tout cas, du moins quand on traîne à l'université, on entend parler de ça parce que c'est comme un peu l'avant-garde dans les technologies biomédicales, si on veut. Puis aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est d'essayer de simplifier ça un peu pour monsieur, madame, tout le monde, ou les gens même en sciences fondamentales qui ne sont pas nécessairement en pharmacologie, en chimie, en électrochimie comme vous, tout ça. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver ou en été en ce moment, des biosenseurs. Alors, pour commencer, j'aurais envie de te demander, Nicolas, qu'est-ce que c'est en fait un biocapteur, biosenseur? Est-ce que c'est biosenseur, biocapteur? Pourquoi on a deux termes? Est-ce que c'est la même chose?
Oui, en fait, bon, biocapteur, premièrement, on peut le séparer en deux mots. Donc, il y a la partie bio et la partie capteur ou senseur. Je pense que la confusion capteur-senseur, c'est juste ça vient de l'anglais, en fait. Là, c'est biosensors en anglais, essentiellement. Donc, si on se concentre sur la portion capteur, c'est simplement un instrument d'analyse, en fait, qui permet de détecter des composés, des molécules d'intérêt. Là, ça peut être comme doser un médicament, par exemple. Puis l'aspect bio de biocapteur, c'est que comment le capteur, lui, va fonctionner pour reconnaître la molécule qu'on veut détecter, bien, ça va utiliser un élément de reconnaissance qui est de nature biologique, donc par exemple, protéines, enzymes, brin ADN.
Puis mettons qu'on parle dans quelque chose que les gens pourraient, tu dis protéines, ça c'est tous des gros termes, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait sentir avec ces biocapteurs-là, par exemple? Est-ce que tu as un exemple de... comment dire, de quelque chose plus sur le plancher des vaches. Là, comme...
Ah oui, oui. Donc, en fait, en termes de biocapteur, celui commercial, disons, le plus répandu que tout le monde connaît, c'est certainement le glucomètre. Donc, soit le glucomètre qu'on utilise, qu'on va se faire un petit... poinçonner un bout d'un doigt pour avoir une goutte de sang, ou simplement, il y a aussi la version qu'on met comme un patch sur un bras.
Oui.
Ça, c'est un biocapteur. En fait, le sang va réagir... En fait, le glucose du sang va réagir avec une enzyme qui est sur... le capteur, puis on va être capable de venir générer un signal électrique, en fait. C'est ça, le but du capteur, c'est de détecter un élément, puis de le transformer en quelque chose qui est mesurable par nos instruments. Comme ça, on peut maintenant avoir une valeur, là, disons, numérique de concentration, par exemple.
Puis ça fait longtemps que ça existe, les glucomètres, parce que je crois avoir compris, en parlant avec Philippe, votre boss, en fait, que c'est une grosse molécule, le glucose, right?
C'est plus qu'il y en a beaucoup dans le sang, c'est facile à détecter.
Mais il y en a plus si tu manges des bonbons, c'est genre
général. Mais les niveaux sont assez hauts, donc ça vient... Le défi est moins grand que pour d'autres molécules, en fait.
OK, parce que c'est ça qu'on va parler tantôt dans vos projets. Il y a des molécules qui sont plus difficiles à détecter dans le corps. Notamment, Lisa, je pense, toi, dans ton projet, c'est des molécules un petit peu... on parle de sérotonine dans le cerveau, tout ça. C'est quoi le défi pour toi avec ces molécules-là?
Moi, c'est sûr que mon projet porte sur la détection en neurotransmetteurs. Et on sait que dans le cerveau, les relargages en neurotransmetteurs, c'est vraiment des concentrations très, très faibles, en plus d'être des très petites molécules. Et c'est ça qui rajoute un défi supplémentaire pour la détection, contrairement, comme Elodie a dit, au glucose, qu'il y en a beaucoup plus dans le sang.
ou la cocaïne, dans le cas que vous utilisez souvent pour faire vos tests, parce que ça flash pas mal, il y en a beaucoup. Non, mais parle-moi un peu de cocaïne, Élodie. Merci d'ailleurs, Nicolas, c'est pour ton explication. Élodie, quand vous êtes venue au brunch à la deuxième édition l'autre jour, justement, il y avait la fameuse cocaïne qui revenait dans beaucoup de vos recherches. Pourquoi on utilise cette molécule-là particulièrement, parce qu'elle est un petit peu controversée là, dans la société?
C'est pas une super belle réponse, là. C'est surtout parce que le capteur de cocaïne fonctionne bien. Okay. Puis aussi le fait que la cocaïne, c'est une molécule soluble dans l'eau, qui n'est pas toutes les molécules, donc on peut aller à des concentrations plus hautes. Puis aussi dans le corps, en fait, pour des modèles vivants, c'est plus facile d'aller à des concentrations qui sont relativement hautes avec la cocaïne.
Okay.
Mais ça a été surtout utilisé pour étudier des modèles de dépendance dans des rats. Fait que c'était ça le but avec le capteur de cocaïne.
Des modèles de dépendance.
Ouais.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire faire un lien entre la concentration qu'il y a de cocaïne dans le cerveau et un comportement qu'il pourrait avoir, en fait. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de lien. Parce qu'il y a juste un lien entre la quantité de cocaïne qui est donnée et un comportement. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la vraie concentration qu'il y a dans l'animal ou dans la personne, en fait.
OK, puis là, on essayait de voir justement, c'est l'addiction, avoir un peu j'aime pas ça dire ça, mais un pattern d'addiction, si on veut, essayer de comprendre un peu les enjeux, notamment, là, on en parlait dans un autre épisode de Balado, là, par rapport à la crise des opioïdes. Je sais pas si la cocaïne est considérée comme un opioïde.
Non, c'est pas la même chose.
comment on appellerait ça, la cocaïne?
Oh mon Dieu.
On vous encourage
pas.
Non, mais en passant, les gens qui nous écoutent, on vous encourage pas à prendre de la cocaïne. C'est important de
mon Dieu, ça a un nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait?
Un psychotrope? Bon.
C'est un stimulant quelconque.
Un psychostimulant, peut-être. J'ai l'impression, moi j'ai un TDAH, puis j'ai l'impression que ce que je prends, c'est comme une version soft pharmacologique de cocaïne qui fait que tu es vraiment concentré. Non, mais c'est vrai, c'est pas de la cocaïne, là, mais ça reste que le Ritalin, c'est un psychostimulant aussi au même titre que la cocaïne.
Psychotrope.
Un psychotrope.
Mon Dieu.
Psychotrope, tu le savais.
Tabarouette. Moi, je vous dis, là, à la fin de mes 4 ans, 5 ans, là, comme coordonnatrice des communications, je vais avoir mon bac en pharmaco, je pense. Alors, pour les biosenseurs, en ce moment, on a parlé du glucomètre, tout ça qui est très reconnu. Est-ce qu'il y a d'autres biosenseurs présentement qui circulent dans les milieux hospitaliers, à la maison, pour les gens qu'on pourrait retrouver, ou c'est pas mal le seul?
Je dirais que c'est... Moi, je vais y aller. Je dirais que c'est pas mal le seul qui est vraiment bien approuvé par la FDA, parce que c'est surtout qui est en français, Food and Drug Administration.
Ça, c'est pas aux États-Unis?
Oui, mais c'est souvent le barème qui est utilisé pour le reste du monde, en fait.
Et boy, souvent, on dirait que dernièrement, là, je me fierais pas au barème des États-Unis pour quoi que ce soit. Là.
Mais il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a une couple d'autres plateformes, ou en fait capteurs, qui mesurent des ions dans le sang.
Donc,
du sodium, du calcium, du potassium, juste parce que souvent, ces tests-là sont assez... On a besoin de savoir assez rapidement qu'il y a un marché avec ce type de capteur-là.
Parce qu'en fait, les biocapteurs, si je comprends, ça pourrait remplacer éventuellement des prises de sang.
C'est ça le but.
C'est ça l'objectif.
Oui, c'est ça l'objectif.
À place de prendre son petit papier puis d'aller attendre au CHU puis de dire à notre boss qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on pourrait avoir justement en temps réel les différents tests, les bioanalyses qu'on a déjà présentement. Parce que potassium, sodium, tout ça. Puis est-ce que, par exemple, est-ce que le sang est le seul liquide? Parce que on sait qu'il y a des tests d'urine aussi, il y a des choses comme ça. Est-ce que ça pourrait faire partie aussi des liquides qu'on pourrait utiliser éventuellement pour des biosenseurs?
Oui. En effet, oui. Vas-y,
Exactement. Dans le fond, tous les liquides, en fait, où on va retrouver les composés d'intérêt à l'intérieur, donc ça peut être, par exemple, les liquides interstitiels, l'urine, le sang, évidemment, c'est ça la matrice la plus utilisée, on va dire, pour les analyses. Il y a même des gens qui développent des biocapteurs pour la sueur même.
Ah oui?
Ça apporte beaucoup de défis parce que, c'est non constant comme matrice, mais quand même, l'objectif, c'est... Premièrement, de réussir à faire des mesures qui sont précises, mais aussi de développer des capteurs qui sont le moins invasifs possible. Contrairement à avoir, par exemple, des prises de sang fréquentes, où là, ça peut... c'est invasif pour le patient au final.
Okay.
Donc, si on peut de manière, disons, externe, réussir à obtenir la même information, ce serait un peu l'objectif là, ultime, si on veut.
Moi, puis d'ailleurs, je parlais avec Philippe de son projet de recherche, qui a eu récemment une distinction là, par rapport à ça. Là. Il devait collecter de la salive.
Oui, effectivement.
Puis ça a l'air que ça a été tout un défi. Là. C'était une association qui est avec Colgate, je pense, oui. Pour justement la gingivite, qui est une maladie qui est reconnue, puis que presque tout le monde a si on ne se passe pas le fil dentaire. Là. D'ailleurs, on pense toujours, quand on va chez le dentiste, qu'on est des fins limiers là, de dire qu'on passe le fil dentaire, mais quand on saigne à ce point-là de la bouche, on le sait très bien qu'on passe pas entre nos molaires tous les jours. Mm-hmm. Mais donc, lui, il allait capter de la salive, puis dans la salive, on retrouve aussi d'autres éléments. On pense aussi aux Olympiques, tu sais, qui s'en viennent en juillet. Il y a des tests d'urine pour les athlètes. Peut-être qu'éventuellement, avec les biosenseurs, ça serait plus rapide pour faire les analyses. Ça pourrait aussi peut-être être une application éventuelle.
Oui, mais il y a aussi en fait un gros marché qu'on pense pas en pensant aux biocapteurs, là, mm-hmm. mais les tests COVID, c'est un biocapteur. Puis il y a un grand marché pour le diagnostic, en fait, qui permet d'avoir... L'idée, c'est d'avoir le diagnostic le plus rapidement possible. Il y en a pour la tuberculose, il y en a pour le... En fait, il y a plein de maladies, en fait. Puis l'idée, c'est que ces tests-là, ils sont coûtent presque rien à faire.
Mm-hmm.
Et en plus, c'est assez rapide. Puis on est capable d'avoir des résultats avec de la matrice qui est relativement de la matrice, en fait... du liquide qui est assez facile à aller chercher. C'est un peu ça l'idée. Puis, comme, mettons, salive, etc., muqueuse.
Muqueuse, en général.
Ouais, c'est ça.
Parce que les PCR, en fait, les tests PCR, c'est des biocapteurs ou c'est... On parle de COVID, là, tu m'as ouvert le sujet, là. On est allé en parler, mais on recommence tranquillement à pouvoir en parler sans voir les yeux qui lèvent au ciel. Là. Donc, les tests PCR, est-ce que ce serait une forme de biocapteur? Pas vraiment.
Ben, ça dépend c'est quoi ta définition pour vrai.
Je vois Date là-bas qui fait non.
Ben, c'est une méthode de détection qui est basée avec un système, disons, bio, si on mm-hmm. veut. Mais quand on parle vraiment de biocapteur, on s'intéresse beaucoup à miniaturiser ou à simplifier l'équipement vraiment qu'on retrouve dans les laboratoires puis avoir quelque chose qui est plus, disons, amenable à être utilisé par monsieur, madame, tout le monde, par exemple.
PCR n'est vraiment pas ça. Non. Ça prend beaucoup d'étapes, ça prend un laboratoire, ça prend des gens avec beaucoup, beaucoup de formation pour arriver à ce résultat-là.
Mais je voulais dire plus, ben je sais pas, là, c'est peut-être moi qui est mêlée, là, parce que PCR puis l'espèce de petite trousse qu'on avait, c'est pas la même affaire. Là, parce que, tu sais, avec qu'on mettait notre salive, là, qu'on se grattait là, la bouche, puis le fond de la gorge, puis là, tout ça, là, ça, c'est pas PCR.
Pour COVID?
Oui.
Non, c'est pas ça. Mais c'est un peu la même idée, parce qu'en fait, PCR, ce que ça fait, c'est que ça vient chercher un morceau d'ADN ou en ARN. Là. On l'amplifie, et ensuite, on est capable de le trouver c'était quoi l'ADN, en fait. Puis là, on peut le relier au virus. Mais ce qui se passait, en fait, avec les tests COVID, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'amplifie pas.
OK. Fait que dans le fond, c'est... Puis l'espèce de petite lamelle, ben le petit truc qu'il y avait était déjà comme... C'était pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça, ce serait peut-être un biocapteur.
Ça, c'est un biocapteur.
Exactement. Ça, c'est un biocapteur. Donc, monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser les tests COVID, savoir s'il y a présence du virus. Évidemment, c'est moins précis que PCR. Ou est-ce que là, on va aller chercher plus? Parce que là, c'est que... comment dire, pour que la lamelle indique qu'on a la COVID, il faut qu'on ait quand même beaucoup de virions.
C'est en plein ça.
Alors que PCR...
Ben, on amplifie, donc on peut aller chercher des concentrations qui vont être vraiment plus basses.
C'est ça. Puis on sait aussi que pendant la COVID, il y a eu beaucoup de disputes, entre les pays parce que les PCR n'allaient pas au même niveau, dans le sens qu'il y a certains pays qui étaient vraiment intenses puis qui allaient vraiment chercher des trucs comme ça, alors que d'autres étaient... Il y avait moins de tours là, qui étaient faits. Donc, ça a été comme un débat, en fait, là, entre les divers pays. Mais bon, si on sort de la COVID maintenant, puis qu'on commence à parler un peu de vos projets individuellement, on va faire un premier tour de table. Après ça, je vais inviter Manon et Date qui sont un peu... et Ariel qui sont un peu en retrait. Si on commence par toi, Nicolas, qui est au postdoc du côté du laboratoire là, d'électrochimie avec Philippe Dauphin-Duchamp, toi, c'est quoi, sur quoi tu travailles si on voulait en parler, par exemple, aux gens qui nous écoutent?
Oui, effectivement. Donc, ça va venir un peu avec les discussions suivantes par rapport aux différents biocapteurs qui sont développés avec les gens du groupe. Mais moi, mon projet, c'est surtout de faire un peu le pont entre le laboratoire puis les instituts de santé ou même, monsieur, madame, tout le monde, justement, dans le sens qu'on veut prendre l'équipement du laboratoire et le rendre, le simplifier, le miniaturiser pour qu'on puisse l'apporter facilement, par exemple, dans une salle de chirurgie pour assister les professionnels de la santé, par exemple. Donc, on parle vraiment d'un équipement qui coûte des centaines de milliers de dollars, qui est peut-être aussi grand et lourd qu'une grande valise de voyage, Puis, je prends ça, je le miniaturise à un dispositif qui est plus petit qu'un téléphone, qui se tient, même qui est la même taille qu'une pièce de 25 sous, par exemple. Un des dispositifs sur lequel je travaille en ce moment. Puis qu'on peut venir brancher l'élément de reconnaissance que les gens du laboratoire développent, puis venir faire une mesure assez précise tout de même, sur demande, par exemple.
Puis là, est-ce que toi, présentement, tu travailles sur un biocapteur particulièrement? Est-ce que c'est toi? Parce que là, au brunch, on a parlé d'anesthésie.
Oui, exact.
De salle de chirurgie. Est-ce que ce serait ça? Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que ça pourrait faire, cette petite pièce de 25 cents-là que tu as?
Oui, définitivement. Donc, une des idées, c'est que quand on arrive, par exemple, en chirurgie, puis qu'on a une anesthésie qui est, par exemple, générale, ou locale, en fait, dans le fond, les professionnels de la santé vont surtout se fier sur les signes vitaux pour identifier, OK, j'ai-tu mis un bon dosage, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que chaque personne est différente sur la vitesse d'élimination du composé qu'on va avoir administré.
Selon le métabolisme.
Exactement. Donc, on peut se fier, mettons, à des posologies, par exemple, sauf que s'il y a certains composés qui ont une plage, disons, qu'on appelle thérapeutique, donc une concentration effective qui est très précise à maintenir. Mais là, si on dort, c'est difficile à dire aux professionnels de la santé si on sent ou pas, etc. Donc, l'idée...
On peut se fier au battement cardiaque, parce que si ça bat vite, bien là, la personne est inconfortable,
oui.
J'imagine, mais c'est plus précis avec ce que tu proposes.
Oui, parce que l'alternative qu'ils auraient, ce serait de prendre une prise de sang, mais là, il faut qu'ils l'envoient à des laboratoires spécialisés pour avoir un résultat qui arrive quelques heures après, mais là, eux, ils sont en chirurgie, là, il faut qu'il y ait la valeur.
Roger a le temps d'avoir mal longtemps. Là.
Exact.
Ouais, c'est ça.
Donc, nous, en fond, on aurait ce dispositif-là portatif qui serait au chevet du patient, littéralement, puis qu'on aurait des valeurs là, presque à chaque seconde, en fait. Donc, les professionnels de la santé pourraient ajuster le dosage toujours sur demande, en fait.
Puis ça vient mesurer la présence de l'anesthésien dans le sang?
Oui, exactement.
Et non la douleur?
Oui.
Parce que c'est une autre question. On en avait parlé au brunch. Comment ce serait intéressant de mettre la fameuse échelle très, très subjective de douleur 1 à 10 là, à poubelle, puis d'avoir plutôt un biosenseur qui capterait la douleur. Mais là, on n'est pas là. C'est vraiment la présence de l'anesthésiant. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Parce que je sais qu'il y a des gens, puis vous êtes sûrement tous quelqu'un que vous connaissez, chez le dentiste, qui ne gèle pas. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas capable de geler. Est-ce que ça serait capté? Je te pose une colle, là.
Ben, en fait, le capteur le capterait. Le fait que ça ne gèle pas, c'est plutôt la réponse de l'individu qui pas celle qu'on s'attend, disons.
Non, c'est ça.
Mais nous, tu sais, si le composé est administré puis qu'il circule, par exemple, dans le sang ou dans le liquide qu'on cherche à détecter, on serait capable de le mesurer. À ce moment-là, tu sais, si le dentiste lui dit « je vais injecter plus », il pourrait savoir plus précisément de ne pas dépasser une certaine dose, parce qu'au final, c'est la dose qui fait le poison, entre guillemets. Là, donc, il ne faut pas dépasser un certain seuil, mais toujours être à un seuil qui... assez élevé pour être efficace quand même. Donc ça permettrait de fonctionner pour le détecter, mais peut-être pas pour répondre à la question de pourquoi la personne ne gèle pas.
Non, c'est ça. Ça ne répondra pas à la question, mais on va détecter que ça ne fonctionne pas, par exemple. Ça, c'est super intéressant. Puis là, ça, c'est pour amener ça éventuellement dans les salles au niveau clinique. Dans combien de temps, mettons, si quelqu'un à la maison se dit hey, « mon Dieu, quand est-ce que moi, je vais pouvoir avoir accès à cette technologie-là? » Là, c'est toujours la grande question dans les balados, parce que c'est toujours long. Hein? Peu importe qui j'invite en laboratoire, nous, on est beaucoup au niveau fondamental.
Oui, exact.
Même si on se rapproche du clinique comme toi, tu le fais. Mais si on donne un horizon de temps, selon toi...
Ben, d'après moi...
Dépêche, non pas.
Ouais. Je vais retourner tout de suite.
Ouais,
en fait, probablement, ça va en prendre encore plusieurs décennies parce que, justement, là, on est surtout en phase en recherche fondamentale. Donc, on développe les différents capteurs pour essayer d'optimiser leur fonctionnement pour être sûr que ça fonctionne à la fin.
Mm-hmm.
Mais une fois que cette recherche, disons, fondamentale-là, au laboratoire est faite, on doit aller dans des études, premièrement avec des rats pour voir si ça fonctionne bien dans un modèle vivant.
Mm.
Puis, après ça, aller dans une étude clinique pour voir si qu'il n'y a pas d'effet néfaste en fait sur l'humain là. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes différentes à traverser qui sont très longues, très sévères là, point de vue Santé Canada, exact.
Ouais, on en a parlé dans une autre je pense que c'est le dernier épisode de Balado ou l'autre d'avant, c'était toutes les étapes pour le développement du médicament, mais c'est la même chose aussi pour toutes les technologies qui se rapportent. Il y a même des étapes de pharmacovigilance après. Je ne sais pas si ça rentre aussi de votre côté, qu'il y a quelqu'un qui observe justement les résultats. Il a dit, mais oui.
Oui,
donc, Tu n'as toujours pas répondu à la question fatidique. Combien de temps?
C'est vraiment difficile de mettre un moment précis.
Moi, je veux une date.
Ouais, c'est ça. À cette date-là, tu vas m'écrire.
C'est pas encore fait.
Oui, oh, exact. Mais oui. Non, honnêtement, je pourrais pas répondre parce que ça dépend de tellement de facteurs. Mais j'ai l'impression qu'avec comme le nombre de personnes qui travaillent sur ça dans le monde, puis en fait, il y a une compagnie en fait, qui utilise un peu la technologie que nous on utilise, qui vient d'être fondée en Australie.
Ah oui?
Okay. Qui s'appelle Nutromix. Puis eux, ils planifient un déploiement de dispositifs dans 4 ou 5 ans.
OK, d'ici. Quand même. Okay.
Donc, à un certain point, je dis quelques décennies, mais c'est quand même encourageant dans le sens que on va le voir, là.
Oui, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, tu sais, on sait au Québec, présentement, notre système de santé va très, très bien. Puis tout est rapide, tout ça. Non, mais ce qui est intéressant avec ce que tu partages de ton projet, c'est que ça pourrait accélérer les choses. On parlait tantôt d'envoyer l'analyse sanguine, là, puis tatata. Fait que, tu sais, quelque part, d'avoir ces biocapteurs-là, ça pourrait accélérer beaucoup de pratiques médicales, ouais. Pas juste en chirurgie. Donc, ça, c'est super encourageant aussi de voir qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour que ce soit plus rapide les prises de sang, les fameuses prises de sang, tout ça. Donc, ça serait...
C'est aussi où ça coûte moins cher, en fait.
Oui!
Parce que les appareils pour prendre les mesures dans le laboratoire, ils coûtent excessivement cher. Il faut aussi payer les gens qui font ces analyses-là.
Mm-hmm. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui fassent ces analyses aussi.
En plein, on a tout donc, un problème aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ça pourrait vraiment réduire les coûts, le temps, l'impact environnemental. Tous ces biocapteurs-là, c'est un peu là où on veut s'en aller.
Ouais,
ça va être long.
Mais c'est des bonnes nouvelles dans le sens au niveau là, de la pénurie de main-d'œuvre, des techniciens en laboratoire, on n'en a pas 50 000 au Québec. Fait que, c'est quand même intéressant si les machines. On a toujours peur un peu de s'aventurer là, mais si les machines peuvent remplacer certains humains parfois, puis être plus rapide, ça serait encourageant quand même. Merci, Nicolas. Si je vais du côté à gauche, parce que Lisa, ça fait un petit bout que tu t'es pas exprimée. Moi, personnellement, au brunch, quand j'ai entendu parler de ton projet, ça m'a beaucoup intéressée, étant moi-même une consommatrice de pilules pour l'anxiété, de pilules pour la TDAH. Je le dis très ouvertement, on est en 2024. Donc, moi, ce que j'ai trouvé difficile personnellement, puis beaucoup de gens qui ont des maladies comme ça, d'anxiété, des troubles plutôt, vivre ces difficultés-là de dosage de ces médicaments-là, la bonne molécule, comment on la prend, tout ça, là, ça devient vraiment un cirque. Là. On appelle ça même de l'errance thérapeutique, là, dans le sens qu'on se promène puis on a toutes sortes d'effets secondaires, c'est mal dosé. Puis toi, ce que tu proposes, en fait, c'est justement d'être capable de mieux capter c'est la sérotonine, entre autres, qui est une norme. Je te laisse aller.
Oui. Oui, comme tu as dit, aujourd'hui, c'est vrai que les troubles mentaux, c'est un vrai problème. En tout cas, on en entend de plus en plus parler, et tant mieux, parce que c'est très important de les prendre en compte au même titre que des problèmes physiques. Et aujourd'hui, c'est super important de mieux comprendre justement le développement de ces troubles et comment les traiter, donc comme tu as dit, avec certains médicaments. Et c'est pour ça que moi, mon projet, il s'inscrit dans ce cadre-là, qui est d'être en mesure de quantifier des neurotransmetteurs, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un déséquilibre, donc c'est une des causes, mais un déséquilibre en des concentrations en certains neurotransmetteurs dans le cerveau peuvent justement amener à développer certains troubles mentaux. Et c'est dans ce contexte que se positionne mon projet, qui porte donc sur la détection en neurotransmetteurs, en particulier la sérotonine, parce que c'est pour l'instant celui qui me donne les meilleurs résultats et aussi un des neurotransmetteurs les plus importants.
Ouais.
Et donc voilà, d'être en mesure de quantifier ces neurotransmetteurs-là directement au sein du cerveau. Donc moi, après, mon projet, c'est plus une preuve de concept où l'objectif, ça va être, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais d'avoir une tranche de cerveau.
J'avoue qu'on ne dit pas ça tous les jours, tranche de cerveau.
Oui, donc probablement de souris ou de rat, qu'on va pouvoir venir faire une cartographie avec les biocapteurs que je développe afin de mieux identifier les centres de fabrication, donc en particulier de sérotonine, et par exemple de voir les variations en concentration si on va venir injecter telle ou telle substance, donc soit un médicament ou par exemple pour stimuler, on parlait tout à l'heure de la cocaïne.
Ouais.
C'est l'objectif. Et le point crucial de mon projet, c'est surtout la taille, parce qu'on sait que du coup, les centres de fabrication de ces neurotransmetteurs-là, c'est à l'échelle, en tout cas dans les souris, c'est à l'échelle micrométrique. Et donc...
C'est pas picrométrique, mais micrométrique, c'est quand même très petit. Là.
C'est très petit. Et donc, c'est tout le challenge d'être capable donc, de fabriquer ces capteurs de taille micrométrique.
Je t'arrête 2 secondes.
Ouais.
M'excuse, j'interviens. Micrométrique, là, si on veut situer les gens, c'est combien de fois plus petit qu'un mètre ou qu'un centimètre ou qu'un millimètre, par exemple?
Alors, un micromètre, c'est 1 fois 10 puissance moins 6. Mais pour donner une idée, ça va être les tailles, ça va être à peu près, en tout cas, l'extrémité de mes capteurs, c'est plus petit qu'un cheveu.
Hey boy!
Donc oui, on commence à être dans le très très petit, mais ça a un intérêt parce que du coup, on va être capable de quantifier à une échelle très précise.
Puis, autre chose que j'ai appris pendant le brunch, c'est que tu conçois toi-même tes capteurs. Tu disais que en tout cas, si vous cherchez quelqu'un pour faire de la couture, je pense que Lisa serait excellente parce qu'elle est capable de vraiment entrer quelque chose qui est plus petit qu'un cheveu, justement, dans son capteur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi dans le laboratoire de faire vous-même les biocapteurs? Parce que tu m'as dit qu'ils s'en produisaient en industrie.
Oui, exactement. Donc, nous, on a choisi de les fabriquer nous-mêmes parce que, tout simplement, les entreprises qui les vendent, c'est extrêmement cher. Et pour un souci de flexibilité aussi, parce que là, j'ai tout le matériel pour les fabriquer et je peux très bien varier la taille ou le matériau. Par exemple, faire des électrodes qui soient en platine ou en or, ça me donne beaucoup plus de flexibilité, en fait, pour fabriquer. Et puis même, après, ça peut servir éventuellement à mes collègues au laboratoire si quelqu'un reprend mon projet par la suite, d'avoir...
Parce que toi, t'es à quel niveau en ce moment? Maîtrise, doc,
rappelle-moi. Là, je suis au doctorat.
Au doctorat, ouais. OK. Fait que post-doc, peut-être?
On verra.
Je veux pas te donner du boulot déjà en partant.
Oui.
Puis pour revenir sur la sérotonine, pour les gens qui nous écoutent à la maison, la sérotonine, c'est pas mal la responsable de notre humeur.
Hein? Oui, en partie, en grande partie.
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle de tranches de cerveau. Désolée si vous êtes en train de déjeuner, les gens. Mais il y a aussi, on sait qu'il y a un deuxième foyer majeur de sérotonine dans notre corps qui est nos intestins, le système digestif. Ça, est-ce que tu penses l'aborder aussi?
Alors, c'est pas prévu dans mon projet, mais c'est vrai que oui, la sérotonine, elle est fabriquée à plus de 90% dans les intestins. Mais non, moi, mon projet, c'est principalement dans le cerveau. Mais ça pourrait être une piste à explorer tout à fait.
Puis permets-moi de te poser la question, si 90% de la sérotonine est produite par les intestins, pourquoi avoir choisi une tranche de cerveau? Si tu avais recommencé, est-ce que tu irais vers les intestins?
Mon projet, à la base, c'est les neurotransmetteurs de manière générale. Je vais aussi me concentrer sur dopamine et noradrénaline.
Ah, OK.
Là, je parle de la sérotonine parce que c'est le capteur qui me donne les meilleurs résultats pour l'instant. Mais c'est sûr que en améliorant... les capteurs et les éléments de reconnaissance qu'on utilise, on va, j'espère, pouvoir être capable de détecter d'autres choses, d'autres neurotransmetteurs.
Ça, on a le cytocine. C'est-tu un neurotransmetteur?
Oui, si je dis pas de bêtises.
Ça, c'est les câlins, les amis.
Mais je crois que c'est aussi une hormone. Ils ont plusieurs rôles.
Oui, c'est ça, c'est aussi une hormone. Mais puis la dopamine, pour les gens à la maison, c'est l'hormone qui fait qu'on se lève le matin puis qu'on fait quelque chose de notre vie. Parce que c'est la motivation, c'est la récompense. Hein. C'est souvent, quand on a beaucoup de likes sur notre publication Facebook, ben là, on a la dopamine, là. C'est pour ça que les gens sont dépendants à leur téléphone puis aux réseaux sociaux parce qu'ils aiment ça. C'est un sentiment de récompense. Ou quand vous faites des listes de choses à faire puis que vous biffez quelque chose, là, bien, ce qui est sécrété à ce moment-là dans vos neurotransmetteurs, c'est la dopamine. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Puis entre autres, les personnes qui ont été TDAH, souvent, ils n'ont pas assez de dopamine dans leur fente synaptique, ce qui explique pourquoi ils ont de la misère à démarrer, ils ont de la misère à terminer ce qu'ils font aussi parce qu'ils aiment beaucoup commencer des choses parce que c'est hyper stimulant, mais terminer, c'est difficile. Fait que ça serait très intéressant aussi de pouvoir le mesurer parce qu'il y a des médicaments psychostimulants qui viennent jouer, c'est pas de la cocaïne,
non.
Mais qui viennent jouer sur la dopamine, dont le fameux Ritalin et tous ces, comment dire, toutes ces variantes. Donc ça, c'est intéressant parce que, Lisa, moi, ce que je trouve intéressant de ton projet, c'est que les médicaments comme les inhibiteurs sélectifs là, de la capture de la sérotonine pour la dépression ou même l'anxiété, on appelle ça, j'ai un chercheur, Martin Audet, qui dit c'est des « dirty meds ». dans le sens que c'est des médicaments qu'on ne connaît pas vraiment ce qu'ils font dans notre cerveau, puis on ne sait pas trop. C'est un miracle, dans le sens qu'ils essayaient de faire autre chose, je crois, à l'époque, pour une autre pathologie, puis ils ont dit, mon Dieu, les gens, ça ne va pas mieux, mais ils sont mauditement de bonne humeur, par exemple. Fait que là, on a des antidépresseurs, donc là, on est un peu à... On y va au pif, si on veut. Fait que, ça serait intéressant aussi. Je pense aux gens qui souffrent de bipolarité. C'est très compliqué de les doser, de savoir quelle molécule utiliser. Puis pendant ce temps-là, ben, y a de la souffrance derrière ça aussi. Fait que, très, très intéressant ton projet, Lisa. Je te souhaite vraiment que ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Un plaisir, merci beaucoup. Élodie, maintenant, toi, t'es récipiendaire toute récente de la Bourse Vanier, qui est quand même une bourse prestigieuse. Félicitations, j'en profite pour te féliciter en même temps. On le fait sur nos réseaux sociaux. Ton projet, toi, c'est plus fondamental, je pense. Hein?
Ouais, moi, c'est plus fondamental.
Qu'est-ce parce que tu fais?
En fait, l'idée, c'est que moi, en gros, c'est de trouver d'autres manières de faire des biocapteurs, en gros.
D'autres manières?
D'autres manières. Donc, d'autres éléments de reconnaissance.
OK.
Donc, c'est un peu vague, mais ça reste très fondamental parce que, en fait, tout le monde ici, dans le laboratoire, travaille sur une plateforme qui a été développée v'là 15 ans environ. Là.
Vraiment out, là.
Non, c'est pas ça le point, c'est juste que l'idée, c'est comme si, avec même plateforme de capteur, je suis il y a 15 ans avec ce que les autres personnes font dans le laboratoire. Donc, moi, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui pourrait peut-être régler un problème dans 15, 20, 30 ans.
OK.
Ouais. Fait que c'est plus fondamental parce que je pars de zéro et j'essaie de monter quelque chose qui va finir par fonctionner pour mesurer une molécule. Mais l'idée, c'est que mon projet, c'est plus dans l'autre sens, que j'essaie de trouver quelque chose à mesurer avec ce que j'ai et non pas... C'est comme un peu l'inverse, là.
Attends, continue ton idée, là.
Parce que en fait, mettons, projet Alisa, projet Annick, ils veulent mesurer une molécule...
Qu'ils ont déjà identifiée
ouais.
avec Moi, quelque chose qui existe.
Voilà.
Puis toi, t'essaies de trouver quelque chose à mesurer, quelque chose qui n'existe pas.
En fait, c'est que j'essaie de faire une plateforme de capteur en fait, qui va être capable de mesurer quelque chose. Mais en fait, l'idée, c'est que la molécule qu'on vient mesurer est vraiment moins importante. Vu qu'on est au début okay. de cette plateforme de capteur-là, l'idée, c'est que plus tard, on pourrait en fait, la raffiner, puis raffiner l'élément de reconnaissance pour mesurer une molécule ou une autre, ou en fait, trouver un problème. Parce que,
d'autres choses que la cocaïne.
C'est ça. Ouais. Parce que l'idée, en fait, c'est... On ne réussira pas à avoir réglé le problème avec un type de biocapteur. Il faut ratisser un petit peu plus large. Donc, c'est un peu... J'aime ça dire que c'est une brique dans le mur des biocapteurs, ce que je fais. C'est juste que je suis plus bas que ce que les autres font ici, en fait.
Mais non, mais pas plus bas. Là. C'est plus fondamental.
Plus à la base. Ça,
c'est
plus à la
base. Péjoratif non plus, mais, mais dans le fond... Tu dis une autre façon?
Ouais.
Dans quel sens? Parce que là, en ce moment, c'est quoi la façon présentement? Là,
que... En fait, ce que les gens utilisent dans le laboratoire, c'est surtout des chaînes d'ADN qui vont venir être capables de se lier avec des molécules. Donc, c'est un élément qui est strictement biologique.
Des brins d'ADN.
Oui, ouais. En plein ça. Ça fonctionne quand même bien. Moi, l'idée, c'est que c'est plus un morceau qui va être chimique, si on veut. Là. C'est un peu le même principe, sauf que la partie qui va venir capter les molécules, c'est une partie une molécule, en fait, une grande molécule. Puis on va être capable de former des complexes avec d'autres molécules, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est juste que, vu que c'est preuve de concept en ce moment, juste faire une nouvelle plateforme de capteurs, je prends les éléments de reconnaissance que je peux trouver, donc les molécules que je peux trouver. Mais l'idée, c'est que ça apporte une flexibilité parce que c'est facile de changer ces molécules-là pour mesurer d'autres choses.
Ben oui.
C'est un peu là que moi, je veux m'en aller.
OK. Fait que là, je vais récapituler. Je fais souvent des résumés pour voir si je suis dans le champ. Parce que si moi, je suis dans le champ, probablement que les gens sont dans le
c'est
champ.
C'est sûr.
Donc, en gros, toi, à la place d'utiliser une composante humaine, comme un brin d'ADN, tu voudrais utiliser une composante chimique, donc synthétisée en laboratoire.
C'est ça.
Puis ça, en quoi c'est pratique? C'est quoi que ça change, finalement?
L'idée, c'est que, évidemment, la biologie est meilleure que nous à faire... à créer des éléments de reconnaissance, sauf que c'est très difficile de les changer s'ils ne fonctionnent pas très bien.
Okay. Tu ne peux pas les modifier.
Pas vraiment, en fait. L'idée, c'est qu'avec ces molécules-là, ça va être plus facile de les changer pour aller dans la direction qu'on veut. Donc, changer les concentrations qu'on peut mesurer, changer qu'est-ce qu'on peut mesurer, changer quelles molécules qu'on veut mesurer. C'est un peu ça, l'idée. Pour l'instant, par exemple, moi, je ne suis vraiment pas là, juste parce que je veux prouver que cette plateforme-là fonctionne assez bien avec ce qui existe déjà, pour ensuite être capable de faire un précédent pour l'amener plus loin, en fait.
Puis ça, c'est ça une preuve de concept.
Ouais,
c'est de prouver que ça vaut la peine, finalement, de raffiner, de faire d'autres études plus poussées.
C'est ça. C'est juste moins...
Right?
Oui. C'est juste moins sexy parce que je ne vais pas régler un problème dans les 10 prochaines années avec ça, c'est sûr.
Non, mais c'est sûr qu'on va avoir des problèmes dans 30 ans. Fait que, c'est le fun que tu travailles déjà sur les futurs problèmes. Là, il y a des gens qui travaillent sur les problèmes actuels. Toi, tu travailles sur qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver... ben pas peut-être, qui va arriver dans 30 ans puis qu'on veut régler. Ça va être intéressant aussi de parler, dans la dernière question tout à l'heure, de peut-être des obstacles que tu rencontres puis des avancées que tu espères, toi, si tu veux continuer dans ce domaine-là, dans cette thématique-là. C'est super intéressant quand même. Là. Puis on comprend à la maison, c'est ça qu'Élodie essaie de faire en sorte qu'on puisse avoir des biocapteurs qui partent de quelque chose qui est synthétisé en labo parce que probablement que tu es un peu contrôlante. Tu veux pouvoir changer les choses. non, c'est une blague. Mais pour pouvoir changer les choses, parce qu'une molécule ou un brin d'ADN, ça change difficilement. Plus qu'en tout cas, quelque chose qui synthétise une grosse molécule en laboratoire.
C'est en plein ça.
Mais je te remercie beaucoup. Je passerai peut-être le micro à Ariel. On va faire un petit mouvement de micro. Alors, bonjour Ariel.
Allô.
Là, Ariel, rappelle-moi ton rôle dans le laboratoire, toi, présentement.
Ben moi, pour le moment, je suis juste stagiaire, mais...
Attends une minute, juste stagiaire.
Puis je vais commencer ma maîtrise dans le laboratoire dès le mois de janvier.
Dès le mois de janvier.
Oui.
Puis toi, tes intérêts, c'est quoi au niveau des biocapteurs? Ça va ressembler à quoi? T'as-tu déjà ton sujet?
Oui, c'est ça. Mais dans le fond, j'ai déjà commencé mon projet de maîtrise pendant mon stage. Puis moi, ça porte sur, dans le fond, comprendre un peu les interactions entre les aptamères, puis comprendre la stabilité de conformation des aptamères lorsqu'ils sont à la surface versus lorsqu'ils sont libres en solution.
On va faire un rewind. Aptamère, qu'est-ce que c'est ça?
aptamère, c'est un peu, dans le fond, c'est tout ce qu'on parle depuis tantôt, mais c'est plus spécifique. Dans le fond, fait qu'un aptamère, c'est un biocapteur, sauf qu'il est spécifique à une cible. Fait qu'il y a un aptamère pour la cocaïne. C'est un biocapteur.
OK, c'est que dans le fond, c'est un biocapteur, mais spécifique pour quelque chose.
Exact.
Une composante, là, comme la cocaïne.
C'est ça.
Ça pourrait être la sérotonine, ça pourrait être...
C'est ça.
Comme toi, tu développes des aptamères, finalement.
Alors, je ne les développe pas, j'utilise ceux qui existent déjà.
OK.
C'est ça. Mais oui, c'est l'élément de reconnaissance qu'on utilise dans nos biocapteurs, ouais.
OK, je comprends mieux. Merci. Continuons, Ariel.
Oui.
Donc, toi, ton sujet, ça va être par rapport aux aptamères, puis...
C'est ça, dans le fond, je veux évaluer la stabilité de conformation des aptamères. Donc, c'est pas très bien compris encore, mais il y a un effet sur les conformations que les aptamères
adoptent. Là, on va juste arrêter. Conformation compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire?
mais dans le fond, la forme que l'aptamère va adopter, juste pour exister, là, ça va prendre une certaine forme. Un aptamère?
Sa forme, je veux dire...
L'aptamère, c'est une chaîne d'ADN, puis elle va se replier.
Ouais. Oui, c'est ça.
OK.
C'est ça.
C'est t'aider un peu.
Oui.
Mais la forme, c'est pas comme, mettons, est-ce que c'est quelque chose qu'on se colle sur le bras? Là. La forme, c'est plus comme...
Bien, la structure, dans le fond. La structure secondaire que les brins d'ADN vont adopter, dans le fond.
La disposition, peut-être.
Vas-y, Nicolas. Essaie de...
Non.
Moi, je saigne du nez, là.
Ben, en fait, je sais pas, on peut l'imaginer comme quelque chose qui viendrait, entre guillemets, s'enrouler autour de la molécule qui nous intéresse. Donc, on part de quelque chose... imaginons, par exemple, un lacet là, qui serait sur le sol, puis en présence de la cible, de la molécule qu'on veut détecter, ben, il viendrait s'attacher à celle-ci. Fait que là, ça changerait sa disposition, si on veut. Puis ça, c'est ce qui vient générer, en fait, un signal électrique mesurable pour nous, là, qui permet de dire, oui, j'ai reconnu un élément, puis voilà, c'est comme j'indique que j'ai une concentration X de ce composé-là.
OK! Fait que là, toi, merci beaucoup. On patine tous ensemble, là. Donc, Ariel, toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que ça s'enroule ou pas?
Oui, bien, en fait, j'essaie de comprendre c'est quoi les effets, qu'est-ce qui va impacter la quantité de signal qu'on mesure, comme Nicolas disait. Donc, la présence d'ions, des fois, en solution, ça pourrait impacter...
Potassium,
exact. Mm-hmm. Tout ça peut impacter la conformation qui est adoptée par les aptamères, puis aussi Il y a plusieurs choses, dans le fond, qui peuvent impacter ça, puis c'est pas encore très bien compris. Fait que moi, mon but, c'est de comprendre un peu c'est quoi qui impacte, dans le fond, la conformation, puis à quel point ça impacte les signaux qu'on mesure.
Puis ça pourrait, j'imagine, à terme, éventuellement, ces recherches-là, si on build là-dessus, ça pourrait permettre de capter d'autres choses?
Bien, dans le fond, c'est que ça va permettre de comprendre un peu mieux comment le... Ben, je sais pas comment dire.
C'est quoi la mécanique qui fait qu'on reconnaît?
Exactement. C'est vraiment, mon projet est vraiment un peu comme de base. Ben, pas de base, mais fondamental. Ouais. Juste de comprendre un peu.
C'est une preuve de concept aussi ou pas vraiment? Plus une compréhension.
Compréhension du système, dans le fond. Là.
Parce que là, on a des systèmes qu'on comprend pas tant. Comme moi, mettons avec mon toaster. T'sais, genre, je sais pas trop comment ça marche, mais ma toast est grillée. Là,
c'est ça.
C'est un peu ça. Là. Vous autres, c'est comme, ben là, ça marche, ça capte quelque chose, mais pourquoi?
On sait pas nécessairement c'est quoi qui se passe non plus à la surface de notre électrode ou en solution. Là.
OK. Fait que toi, c'est vraiment ça. Mon Dieu, mais c'est intéressant. C'est juste compliqué.
C'est ça.
Pour moi, parce que moi, je suis non-initiée, mais tu sais, de dire... parce que la conformation, on parle de forme.
C'est ça.
Parce que je sais que dans les molécules ou sans pharmaco, c'est souvent ça, là, la conformation. Les chimistes médicinaux vont venir ajuster là, certaines parties d'une molécule pour que ça fitte. On parle de la fameuse serrure.
Souvent en pharmacie,
en pharmaco. Mais c'est super intéressant, Ariel. Puis là, tu commences en janvier. Puis toi, dans le fond, la maîtrise, vous autres, ça dure combien de temps, une maîtrise?
C'est environ 2 ans, mais ça peut s'allonger ou ça peut être un peu plus court, dépendamment de ton parcours.
OK, OK. Puis après, est-ce que tu vises le doc? J'imagine que oui.
Je ne sais pas encore. Une chose à la fois.
Oui, j'ai plus stress. Je m'excuse, je faisais faire un post-doc. Toi. OK, OK. Ben, en tout cas, c'est super intéressant. Puis, ça a commencé par un stage. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faire un stage en recherche?
Dans le baccalauréat à Sherbrooke, on a 4 stages. Puis, j'ai fait mon 2e stage chez Philippe. J'étais la stagiaire de Nicolas. Puis, j'avais vraiment apprécié mon stage, mais je voulais travailler sur d'autres choses que ce qu'on avait fait ensemble. Puis, ce projet-là m'intéressait vraiment beaucoup parce que c'est un peu... Ben, je trouve que c'est multidisciplinaire. Puis, ça me permet d'aller chercher un peu de chimie physique, puis un peu de biochimie, puis de l'électrochimie, bien sûr.
Oui, puis vous avez l'air d'avoir un laboratoire agréable. Là, je veux dire, vous êtes des gens dynamiques. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que je voyais ça. Au brunch, tout le monde est venu. Là. Tu sais, je veux dire, tous les étudiants étaient là. Il y a une belle participation. Vous êtes super le fun. Tu sais, je fais juste faire le commentaire pendant qu'on est là. Donc, tu sais, s'il y a des gens, des étudiants qui nous écoutent, qui cherchent peut-être un laboratoire ou aller faire un stage comme Ariel fait ou aller faire un maîtrise doc, peu importe, tu sais, je pense que c'est un beau milieu où est-ce que puis Philippe Dauphin-Duchamp, qui est le chercheur du labo, c'est quelqu'un de super dynamique, super ouvert, tout ça. Donc, c'est un laboratoire intéressant pour se développer. Puis moi, je me souviens quand Philippe est arrivé, j'étais allée le voir. Puis il était tout seul dans son laboratoire. Il venait d'arriver, là, donc, puis on était en pleine COVID. Donc, lui, il avait de la difficulté à recruter les étudiants, tout ça. Puis regardez, là, vous êtes comme 6 aujourd'hui. Là.
Non, c'est ça.
Puis vous avez tous l'air heureux. En tout cas, ils sourient présentement. Ils sourient, pardon, moi, on sourit. Puis Manon, sauf Manon, parce que je ne vois pas, elle est masquée. Mais je pense que ses yeux sourient. Alors, super. J'inviterai peut-être maintenant nos deux amis qui sont un peu en retrait depuis tout à l'heure, Dat et Manon, pour venir nous parler de leur projet. Inquiétez-vous pas, je vais faire des coupures. Ça sera pas enregistré. Prenez le temps de vous installer. Parlez près du micro. En fait, ce que vous entendez dans vos oreilles, c'est pas mal le son. Alors Manon, on est prêt? Super. Alors maintenant, on va commencer par toi, les femmes d'abord, comme on dit. Toi, de ton côté, c'est aussi, il me semble de mémoire que ton projet est quand même aussi plus vers la clinique que vers le fondamental. Peut-être que je me trompe. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi tes intérêts, toi? Tu fais quoi, doctorat, tout ça? Peut-être juste nous parler de ce que tu fais.
Oh ben, je suis en maîtrise de chimie.
Maîtrise, OK.
C'est ça. Et... Moi, je cherche à faire des biocapteurs pour détecter des immunosuppresseurs. Mm-hmm. Des immunosuppresseurs, ceux qui sont utilisés pour, contre le rejet de greffe d'organes.
OK. Ouais. Donc, les greffes d'organes, donc les immunosuppresseurs, ben, c'est ça. Si on ramène peut-être les gens dans ton sujet, c'est que les gens qui ont des greffes d'organes, par exemple des greffes de rein, des greffes de foie, peu importe l'organe, doivent prendre des médicaments qui diminuent leur système immunitaire, parce que sinon, leur système immunitaire, ben, essaierait de chasser l'organe qui ne leur appartient pas. C'est ça?
C'est ça.
Donc, toi, présentement, parce que mon cousin a été greffé des reins, tout ça, puis c'est assez compliqué le dosage de ça, surtout au début, d'essayer de voir, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on continue à vivre dans le monde où est-ce qu'il y a des bactéries, des virus, on ne faut pas non plus que notre système immunitaire soit complètement supprimé. Hein? C'est des immunosuppressants, mais je pense qu'on garde quand même un certain niveau, donc il faut doser la balance bénéfice-inconvénient, si on veut.
Oui, c'est ça.
Toi, c'est un peu ça que tu essaies de voir avec ton projet?
Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, la plage thérapeutique des immunosuppresseurs est très étroite. Genre, au-delà d'une dose, il devient complètement néfaste pour la santé. Et au-delà d'une certaine dose, bah, il est inefficace. Donc, c'est pour ça que bah, surveiller leur taux dans le sang peut être très intéressant. Et actuellement, la seule méthode qu'on utilise, là, c'est les prises de sang. Donc, okay. Ce qui implique tout
ce qu'on a discuté tout à l'heure, toutes les étapes, tout ça.
C'est ça.
Puis tu parlais là, que ça peut être très néfaste rapidement pour le système. Ça, on parle de toxicité, je pense, en pharmacologie.
Oui, néphrotoxiques. Ils sont néphrotoxiques.
Pour les reins.
Pour les reins, c'est ça.
Donc, quelqu'un qui greffait des reins, c'est pas génial.
C'est ça. Puis surtout, c'est un cercle vicieux parce que c'est-à-dire que si on a un problème de rein, bah, il n'élimine plus et puis il le garde et du coup, le taux, il augmente.
Puis là, on a des vraies toxines dans notre corps, puis c'est là, ça devient dangereux pour le métabolisme de manière plus générale. Donc, toi, là, présentement, la maîtrise, est-ce que c'est une preuve de concept que tu essaies de faire? Est-ce que c'est plutôt vraiment de la recherche pour amener en clinique? Où est-ce que tu te situes, toi, dans tout ça?
Bah, en fait, c'est surtout un peu une étape test aussi pour la suite, parce que Philippe, il y a une autre idée derrière mon projet. Parce que là, en fait, c'est surtout si est-ce qu'on peut amener sur un... Parce que je suis un peu quand même lourd, j'apporte une molécule sur un brin d'ADN, donc je fais de la synthèse aussi. Enfin, j'apporte une molécule chimique et en fait, l'idée, c'est de pouvoir après amener autre molécule dessus,
okay.
Sur ce petit brin, pour d'autres connaissances.
D'où la chimie, parce que oui. Toi, ta maîtrise est en chimie, puis les chimistes, c'est comme des pros des blocs Lego là, au niveau des molécules, donc ils viennent vraiment faire des molécules le plus, efficace possible, puis le plus soluble possible. C'est souvent la critique qu'on fait aux chimistes au niveau médicinal, c'est que souvent, ils ont des molécules vraiment, là, des Cadillacs, mais elles ne sont pas solubles ou ne sont pas capables de les administrer, donc... c'est super intéressant. Donc, toi, c'est vraiment au niveau des immunosuppresseurs que tu t'intéresses. T'en es où, là, présentement, dans ton projet?
Alors là, je suis en phase, j'essaie de fonctionnaliser mon ADN. Parce que là, je pourrais accrocher ma petite molécule dessus, là, qui joue le rôle de reconnaissance pour détecter notre type d'intérêt.
Okay.
Là, j'essaie de l'accrocher au brin d'ADN.
Parce que si on vient à l'ADN, on parle de brin d'ADN depuis tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment, en fait... C'est la tâche, en fait, le brin d'ADN. C'est pour ça que vous utilisez ça, c'est pour accrocher votre... Qu'est-ce que vous accrochez avec l'élément que vous voulez sentir, en fait? C'est ça?
Là, l'élément que j'accroche dessus, c'est justement une des molécules, le médicament, l'immunosuppresseur. Là.
OK. Puis le brin d'ADN fait en sorte que l'aptamère ou le biosenseur va repérer. C'est pour ça que vous utilisez l'ADN? Si je fais un pont...
Rien à voir avec un aptamère, parce que là, c'est vraiment un ADN, mais le mien, c'est pas un aptamère. C'est pas lui qui joue le rôle de reconnaissance. C'est vraiment la petite molécule que j'accroche dessus qui va jouer le rôle de reconnaissance.
OK. Parce que là, c'est le médicament que t'accroches?
Oui, c'est ça. Je suis pas en train de dire, c'est un peu compliqué, là, sans schématiser pour ce que je veux faire après avec... j'accroche le médicament dessus parce que... En fait, normalement, quand on injecte ce médicament, il va venir recruter une protéine qui lui est propre. Et c'est cette formation avec cette protéine et le médicament qui va venir empêcher le rejet de greffe. Okay. Et en fait, on va venir recruter cette protéine-là. Et quand vraiment ce bucapteur sera dans le sang avec les vrais immunosuppresseurs là, dans solution libre, bah, la protéine va se décrocher pour s'accrocher avec eux et c'est comme ça qu'on va pouvoir vérifier, enfin, qu'on va pouvoir doser le taux d'immunosuppresseur en sang.
OK, je comprends. Fait que c'est vraiment cette espèce de mécanique-là entre la protéine et le médicament qui fait que si on évite le rejet, donc c'est ça qu'on voudrait quantifier à terme. C'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin,
À peu près.
Ouais, ouais.
Ben, assez pour, mettons, pour les gens à la maison, peut-être. mais c'est super intéressant, surtout que ben il y a quand même beaucoup de gens qui ont des greffons, qui sont greffés là, de nos jours. Ça devient même, ben, on parle même d'organoïdes bientôt, là, en même temps, en simultané avec toi. Là, je ne sais pas comment ça va fonctionner, les organoïdes. Est-ce qu'il va y avoir aussi des anti-rejets pour ça? L'avenir nous le dira, mais c'est quand même très, très intéressant. Manon, merci beaucoup d'avoir partagé ton projet. Et finalement, on a Date à côté de moi qui est là, qui travaille aussi. Parle-nous un peu, toi, de tes intérêts dans le laboratoire.
Je suis en doctorat dans le labo de Philippe. Et mon intérêt de recherche, c'est de développer des biocapteurs pour mesurer des biomolécules dans les matrices complexes. Et on a développé les biocapteurs pour mesurer les molécules dans la salive, comme...
Le projet Colgate.
Exactement.
Okay.
Que Philippe a présenté. Et en collaboration avec CONGAT, on veut développer un outil qui permet aux dentistes, aux patients de faire suivre facilement la gingivite.
Oui.
Oui. Et deux molécules qui nous intéressent à mesurer son glucose et l'adénosine monophosphate, parce que la concentration élevée du glucose dans la salive, c'est un indicateur pour dire qu'il pourrait avoir la gingivite.
Okay.
Et la concentration de l'adénosine monophosphate, c'est un biomarqueur inflammatoire.
OK, ouais. Un facteur inflammatoire qui pourrait être un indicateur aussi qu'il y a présence de gingivite.
Oui, dans la gingivite.
Puis je sais que Philippe parlait des difficultés de recueillir la fameuse salive, mais est-ce qu'il y avait d'autres défis que tu rencontrais dans ce projet-là, justement, par rapport à l'implantation éventuelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver bientôt dans les cabinets de dentistes ou c'est vraiment en phase préclinique encore?
Je pensais pour l'instant, c'est juste une prod de cancer pour avoir quelque chose en clinique, comme tu disais, je pense qu'il faut prendre beaucoup d'étapes à développer. Et l'étape suivante qu'on envisage, c'est on doit faire une validation avec beaucoup d'échantillons salive récupérés par différentes personnes. Ça, c'est l'objectif de la compagnie aussi. Et on s'intéresse à développer d'autres méthodes pour calibrer les capteurs dans la salive.
Mmh, on pourrait faire une espèce de banque de dons de salive puis donner de l'argent aux étudiants qui donnent de la salive. Comme ça, ça pourrait payer leurs études. Non, mais on pourrait avoir un petit business, là, je pense. Date, qu'est-ce que tu en penses?
En fait, on a écrit ça dans le protocole éthique pour récupérer les échantillons.
On va dans les cours les plus plates de l'université puis on recueille la salive des gens qui dorment un peu. Là. Ça serait peut-être payant. Puis là, en ce moment, juste pour situer les gens, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, les dentistes, pour voir s'il y a de la gingivite? Est-ce qu'on y va vraiment à l'œil? Dire, OK, c'est rouge, il y a de la gingivite? Comment?
En réalité, la gingivite va évaluer la gingivite. Le dentiste, pardon, va évaluer la gingivite selon une échelle de notation.
OK. Oui. Donc, full subjective avec
exactement.
Visuellement.
Donc, le résultat est assez subjectif selon les dentistes. Parfois, ça. Comment dire? Parfois, la notation ne nous permet pas de dire est-ce que cette patiente a problème de gingivite ou non.
Mm-hmm.
Parfois, c'est évalue ou sous-évalue.
Je dirais plus sûr, moi, parce que souvent, les dentistes vont surévaluer ça pour justifier que tu reviennes plus souvent te faire détartrer, parce que ça paye. Fait que je suis pas sûre qu'ils vont aimer ça, votre affaire, mais c'est pas grave. T'sais, je pense qu'ils font beaucoup d'argent avec ça en ce moment, les dentistes. Ça, c'est mon petit éditorial du jour. Puis la gingivite, ben, on sait que ce que ça fait à terme aussi, c'est quand même dangereux dans le sens que c'est une maladie inflammatoire des gencives, tout ça, mais ça peut faire en sorte qu'il y ait des chaussements des dents.
Oui, exactement. Si la gingivite n'est pas détectée ou traitée bientôt, ça va engendrer la périodontite. C'est une inflammation très sévère et ça va causer la perte des dents
Oui, c'est ça, les dents vont tomber là, ouais. À terme. Là. C'est sûr qu'il y a aussi tout le marché de greffe de gencives. On reparlait tantôt avec Manon de greffe, mais il y a de la greffe de gencives aussi qui existe là, chez les dentistes. Mais c'est super intéressant, je pense. Puis c'est un partenariat intéressant avec Colgate aussi, qui est une compagnie là, justement de pâte à dents et de produits dentaires. Donc ça, c'est un bon exemple aussi de comment parfois l'industrie s'allie avec les laboratoires là, universitaires, justement, académiques pour monter des projets vraiment, vraiment intéressants. Puis je suis pas mal sûre qu'à terme... Mais si on parle d'horizon de temps, date, par rapport à ce projet-là, là, j'ai posé la colle tantôt à Nicolas pour son projet. Combien de temps ça pourrait prendre avant que dans les bureaux de dentistes, on voit ça apparaître?
Je pense que ça prend des années.
Des années, ouais. Mais combien, mettons?
On pourrait pas donner un nombre d'années précis, mais selon ce que je connais, normalement, quand on développe quelque chose, ça prend environ 5 ou 10 ans pour évaluer, pour valider si le résultat marche vraiment bien ou non, okay. Avant de dépasser l'étape de l'application en clinique.
L'application en clinique, puis après ça, encore faut-il aussi vendre ça au bureau des dentistes, parce qu'on sait que les dentistes, c'est pas comme les hôpitaux, c'est pas public, hein? Donc il faut les convaincre que c'est facile à utiliser, que c'est pas trop dispendieux, que c'est bon pour les patients, que c'est bon pour leur business à eux, si on veut aussi. Donc ça, c'est une autre étape après, de plus, en plus de la preuve de concept. Donc merci beaucoup, Dat, pour ton intervention. Je terminerai peut-être, je sais pas, Élodie, si tu veux reprendre le micro un petit peu... on va faire une petite rotation. Nicolas, si tu veux aussi reprendre le micro, on va y aller avec ça. Avec la conclusion de cette entrevue-là, parce que ça fait l'air de rien, ça fait déjà, bien, c'est sûr qu'il y a eu des petits moments à couper, là, mais ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. J'avais une dernière question. Je pose toujours cette question-là, peu importe la thématique qu'on aborde. C'est quoi les espoirs que vous nourrissez en tant que jeune scientifique par rapport à votre thématique qui est l'électrochimie, les biocapteurs, tout ça? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années dans votre domaine? Qu'est-ce qui, pour vous, serait une avancée là, majeure qu'on aimerait avoir là, dans les prochaines années? Chacun votre tour, peut-être, me dire.
OK, ben, je peux y aller. En fait, je pense que c'est un peu le même but pour tout le monde. Là. L'idée, c'est qu'on veut prendre ce qu'on fait dans le laboratoire puis vraiment régler des problèmes dans la vie des gens, vraiment faire une vraie différence. Mais la triste réalité, c'est qu'il y en a vraiment pas beaucoup qui se rendent dans les hôpitaux ou qui changent vraiment la vie des gens. Il y a le glucomètre, mais le glucomètre, ça a coûté très, 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 très cher à faire.
Okay.
Et c'est un peu ça, en fait, moi, mon éditorial de la journée.
OK, c'est à ton tour, vas-y.
C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur les biocapteurs, mais on est tous des scientifiques. Là. On n'est pas des médecins, on ne sait pas nécessairement où le problème, puis s'il y a vraiment un problème. Puis ce qui serait important, en fait, moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus de collaboration sur tous les fronts. Là. Donc, les entreprises qui commercialisent ça, les médecins qui ont besoin de réponses à des questions pour voir... Il est où le problème? Puis comment nous, on arrive dans ça pour vraiment diminuer les barrières le plus possible pour amener ces plateformes-là de capteurs vers l'utilisateur, en fait. Mm-hmm. C'est que souvent, nous, on prend ça d'un niveau de base, mais on sait pas vraiment où ça s'en va. Mais il y a aussi le fait que c'est un peu un couteau à double tranchant, parce que si on fait ça, on va pas vraiment financer de la recherche qui est fondamentale. Puis l'idée, en fait, c'est on ne sait pas qu'est-ce qui va être utile dans 20-30 ans, c'est juste que c'est beaucoup moins facile à financer. Mm-hmm. Tu sais, moi, mon exemple que je donne, c'est CRISPR, là, CRISPR-Cas9. Ouais, ça a été développé d'une manière très, très fondamentale, puis il n'y a personne qui pensait que ça allait avoir cet impact-là.
CRISPR-Cas9, juste pour rappeler, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais c'est un ciseau ADN, dans le fond.
Ouais.
C'est un peu ça. C'est coupé, mettons, on peut aller... à terme, on pourrait aller réparer des anomalies dans certains brins d'ADN ou des choses comme ça, c'est ça?
C'est un peu ça, mais tu sais, l'idée, c'est que cette technologie-là est comme super importante, elle a beaucoup de potentiel d'application, mais quand ça a été développé, c'était vraiment pas ça le but. Là. On savait pas à quoi vraiment ça servait. C'est un peu ça, en fait, les deux choses que j'aimerais voir.
J'ai le goût de bricoler de l'ADN.
Mais vraiment, c'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Vraiment. Fait que moi, c'est un peu les deux morceaux où je veux que ça s'en aille, c'est qu'il faut vraiment avoir les patients puis la commercialisation en tête, mais il faut aussi financer la recherche qui est plus fondamentale parce qu'on ne sait pas comment on va mesurer les molécules qu'on a besoin de mesurer dans 20, 30, 50 ans.
Oui, ben, parce que ça, c'est un fait. Hein. Tu sais, la recherche fondamentale, souvent, on disait tantôt de base, moi, je suis juste en recherche fondamentale, mais ça reste que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça, les médicaments qu'on prend, la Tylenol, l'Advil, ça a déjà été une recherche fondamentale.
Ouais.
Ça part de là. Fait que c'est vrai que c'est important. Puis on parle souvent de la recherche en silo. Là, vous dites que vous êtes beaucoup dans le monde à travailler sur ces biocapteurs-là. Ça aussi, c'est important de partager puis de bâtir sur ce que les autres font, peut-être pour accélérer à la place de travailler chacun de notre côté. Je pense que c'est un bon vœu pour l'avenir, Élodie. Merci beaucoup. Ton côté, Nicolas, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver dans ta thématique?
Oui, ben en fait, je vais rebondir un peu sur ce qu'Élodie mentionnait par rapport à s'attaquer un peu à des problèmes qu'on ne sait pas nécessairement qu'on va avoir, dans le sens à faire beaucoup de recherches fondamentales, de comprendre comment, disons, les biocapteurs qu'on développe se comportent, en fait, dans différents liquides qu'on veut détecter pour différentes molécules, ou même ce qu'Ariel mentionnait, là. Puis l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une plateforme qui, au final, en fait, coche toutes les cases là, qu'on voudrait d'un système d'analyse idéal qui ne coûte pas cher, qui est facile à utiliser,
mm-hmm.
Puis aussi adaptable. Donc, si on a quelque chose qu'on peut facilement adapter au nouveau problème qui arrive, ben on n'a pas besoin de se relancer dans tout un gros processus de développement monumental, là, si on veut. Puis ça permet de limiter les coûts là, à la fin. Parce que les biocapteurs qu'on développe cochent déjà une case très importante dans le domaine de la chimie analytique, si on veut, c'est qu'on peut juste prendre le liquide, le mettre sur notre capteur et on a la valeur. On n'a pas besoin de, comme les grandes analyses dans les laboratoires, c'est que le liquide qu'on prend, habituellement, il est séparé.
Mm-hmm.
Tous les composés sont séparés entre eux, sont comme mis dans des tubes individuels avant de donner une valeur, tu sais.
Ouais.
Mais tout ça, c'est très complexe, c'est très long. Tandis que nous, les biocapteurs, ben, tout simplement, on est capable d'obtenir de l'information qu'on veut, en fait, là, rapidement. Puis c'est ça, en fait, qui va contribuer à la fin à être capable d'avoir une médecine qui serait plus personnalisée pour chaque individu.
Ouais.
Exactement, c'est ça.
Du côté de Karine Tremblay aussi, là, à Saguenay, je ne sais pas si vous savez, là, c'est une membre chez nous aussi qui fait de la pharmacogénétique. C'est un peu l'idée aussi de la médecine personnalisée. C'est vers là qu'on se dirige dans toutes les thématiques, je pense. Mais c'est vraiment très bien ce que tu dis. Puis qui coche toutes les cases, je trouve ça important aussi parce qu'on sait que la peur du changement, c'est carrément une thématique à l'école de gestion. Là. Les gens, on parlait avec Dat tantôt là, dans les bureaux de dentistes, tout ça, quand tu amènes quelque chose, il faut que ça coche toutes les cases, que ce soit économique, facile à utiliser. Les gens ne veulent pas se compliquer la vie de manière générale. On en parle en environnement aussi par rapport à la crise climatique, dans tous les domaines. Donc, je pense que c'est vraiment important que ça coche cette case-là, que ce ne soit pas compliqué et que ce soit facile à utiliser pour les gens.
Oui, définitivement.
Ben, très bon vœu pour l'avenir aussi. Dat, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver du côté des biocapteurs?
Comme Elo et Nicolas ont dit, je pense que notre plateforme de capteurs a beaucoup d'avantages qui permettent de mesurer les molécules directement dans les matrices complexes qui donnent le résultat très rapide. Mais ça prend beaucoup de collaboration aussi, vu que c'est un domaine multidisciplinaire et ça demande qu'on doit travailler avec d'autres partenaires comme industriels ou d'autres partenaires hospitaliers pour qu'on puisse amener à un produit, comme tu dis, dans le futur.
Oui, bien c'est ça. Puis justement, il y avait un article qui est sorti, je pense c'est la semaine dernière ou la semaine avant, sur l'université, puis le fait qu'on a beaucoup de recherches partenariales ici à l'Université de Sherbrooke, puis qu'on met l'accélérateur là-dessus aussi. Puis je pense que c'est important qu'il y ait communication, tant avec l'industrie, le domaine clinique, puis le domaine fondamental, académique, je pense, pour réussir à créer des choses plus rapidement, plus efficacement, puis aussi que ce soit plus adapté. Parce que comme Élodie disait tout à l'heure, vous n'êtes pas médecin. Donc, c'est sûr que d'avoir le input de médecins, le input des gens, des patients, ça peut aider aussi à créer des choses qui vont être adaptées. Parce que des fois, ce qu'on réfléchit dans un laboratoire, c'est pas toujours adapté. C'est un peu comme quand on fait de la construction, ce que les architectes vont imaginer, c'est pas toujours adapté à la réalité. C'est un peu la même chose. Vous êtes comme les architectes des biocapteurs, puis faut que l'application se fasse. On a beau vouloir mettre un beau porte-savon, si le savon ne fonctionne pas dedans. Non, mais c'est un exemple dans le sens que je pense que c'est important que tout le monde travaille ensemble, puis je pense que tous vos commentaires se rejoignent à ce sujet-là. Donc, on est déjà à la fin de notre entrevue. Ça a été super intéressant. Déjà, c'est intéressant quand vous êtes venu au brunch, deuxième édition. J'ai vraiment aimé. J'aurais aimé tous vous entendre. Je sais qu'on a manqué de temps. Vous étiez quand même six pour une heure, même coupé un peu parce qu'on a dû changer de local de façon un peu abrupte. Mais c'était vraiment intéressant. Puis, j'invite les gens à continuer à s'intéresser aussi à cette thématique. Bien, c'est pas une thématique, en fait, à ce champ de recherche-là qui sont les biocapteurs, l'électrochimie, parce que je pense que c'est vraiment l'avenir. On va y aller avec l'intelligence artificielle aussi. On n'en a même pas parlé aujourd'hui, mais il y a toutes sortes de choses qui arrivent aussi avec les algorithmes. On n'est vraiment pas à la fin de nos recherches à ce sujet-là. Donc, je pense que ça va juste continuer à s'améliorer. Puis c'est encourageant pour les gens à la maison. On en parlait tout à l'heure, que ça va diminuer les coûts, que ça va accélérer certaines pratiques médicales. Donc, tu sais, c'est dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre aussi dans lequel on est présentement. Je pense que toutes les recherches que vous faites, même au niveau fondamental, même si c'est juste au niveau fondamental, comme Ariel le disait tout à l'heure, je pense que ça va être utile parce que c'est l'avenir. On s'en va par là avec les trucs automatisés pour mieux gérer la santé des gens et des populations. En tout cas, ça ne peut pas être pire qu'en ce moment. Alors, je vous encourage à continuer vos recherches. Puis, c'est ce qui terminerait notre 8e épisode du balado de l'IPS. Donc, je vous remercie énormément de vous être déplacés en studio.
Merci de nous avoir reçus.
Ben oui, merci.
Ça fait plaisir. Je sais que Philippe aurait aimé être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il est en train d'enseigner. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. On pourra le recevoir en studio aussi pour parler là, de ces thématiques là, dans le laboratoire de manière plus générale. Mais avec vos projets, on a quand même une idée de ce qui se passe derrière les portes de ce laboratoire-là qui est à la Faculté des sciences, je le répète, au campus principal. Alors, je vous dis, chers auditeurs, merci d'avoir été au rendez-vous pour ce balado-là. On continue de vous informer sur la pharmacologie puis tout ce qui est autour de la pharmacologie aussi, comme aujourd'hui avec les biocapteurs. Puis on va revenir avec un 9e épisode le mois prochain. On recommence à enregistrer le plus fréquemment. Alors, je vous dis à la prochaine!